Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le débat africain. Alain Foucault.
Jusque-là, le nec plus ultra, le chic en Afrique, était d'arborer les vêtements, les sacs, les bijoux, les chaussures et les mobiliers de grandes marques occidentales, celles qui s'affichent dans les grandes avenues avec d'énormes panneaux publicitaires, celles où l'on entre dans le magasin avec ce rituel très feutré des hôtesses avenantes, vous proposant tout de suite de vous prendre en charge. Ça, c'était avant qu'elle et il invente le luxe made in Africa. Même si le phénomène continue d'exister, même si les plus fortunés d'un certain âge n'ont pas totalement modifié leurs vieilles habitudes, sont arrivés sur ce segment de jeunes cadres, une nouvelle génération de créateurs africains qui conquièrent le cœur des millions de subsahariens. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène de mode avec des boubous coloriés presque folkloriques que beaucoup ramènent de vacances ou achètent dans les magasins spécialisés, mais d'une industrie qui se met en place avec une cible bien déterminée. Hein, une cible suffisamment large et suffisamment ambitieuse qui a conquis les cœurs au-delà du continent. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au luxe made in Africa, avec en ligne au téléphone dans quelques capitales subsahariennes plusieurs créateurs et patrons d'industrie. D'abord, Marie-Laurence Kipré, créatrice de la marque Nadré Laurent. Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour Alain.
Je ne peux m'empêcher de poser la question de savoir si Laurent, c'est pour votre père, Laurent Gbagbo, puisque je précise que vous êtes sa fille, la fille de l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est pour lui, ce Laurent, dans la marque ?
Effectivement, Laurent, c'est pour lui.
Bien. Notre second invité est un transfuge d'une grande maison de luxe, L'Oréal, pour qui il a d'abord travaillé à New York, avant d'être nommé directeur général de L'Oréal Afrique de l'Ouest, basé au Nigeria. Il est aujourd'hui le fondateur et directeur exécutif d'une marque qui s'est tout de suite faite une place dans l'environnement du luxe en Afrique, notamment dans les pays d'expression anglaise. Segbi, la première marque de luxe durable made in Africa. Bonjour Sékou Koulibaly.
Bonjour Alain.
Notre troisième invité est le cofondateur et PDG de Afrikia, une place de marché en ligne dédiée à la création inspirée par l'Afrique, mode, artisanat, art et autres. Bonjour Moulay Tabouré.
Bonjour Alain.
Alors, nous devions avoir sur ce plateau une quatrième personne, une quatrième créatrice qui marche très bien en ce moment, qui s'appelle La Falaise Dion, créatrice ivoirienne de pièces de bijoux réalisées à partir des coris. Celle qui a été repérée par la chanteuse Beyoncé, toujours à l'affût d'une nouvelle garde hautement créative. On attend qu'elle nous rejoigne si le téléphone le permet. J'ai envie de commencer en disant, est-ce vrai que les grandes marques s'intéressent à l'Afrique aujourd'hui, Sékou Koulibaly?
Oui, je pense que les grandes marques s'intéressent à l'Afrique, quel que soit le domaine. L'Afrique est un des relais de croissance, on va dire, du 21e siècle, parce qu'on a quand même remarqué un ralentissement de la croissance en Asie et en Amérique latine. Maintenant, tous les yeux sont braqués sur l'Afrique. Après, ça évolue par secteur.
Mmh. Ça évolue par secteur, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs où ça marche moins bien. Dans quel secteur ça marche ?
Moi, je pourrais parler par rapport au secteur de la beauté, mais on peut regarder, on va dire, l'intérêt des secteurs aussi en fonction des financements qu'on y apporte. Donc, on sent beaucoup plus, on va dire, d'énergie dans tout ce qui est fintech, finance, télécommunications, agriculture, bâtiment. Nous, on opère dans un secteur qui reste un secteur de mode, beauté, luxe. Et c'est vrai que souvent, on doit se battre beaucoup plus pour pouvoir avoir une voix et attirer certains investisseurs qui ont tendance sur l'Afrique à ne pas investir dans ce secteur-là. Mmh. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur, à ne pas faire confiance à l'Afrique.
À ne pas faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains même font confiance aux autres Africains qui se lancent dans la mode? Là, je m'adresse à Marie-Laurence Kipré. Est-ce que vous avez le sentiment que le complexe que l'on a toujours eu en allant chercher des grandes marques dans les grandes avenues européennes, que ce complexe-là est tombé et qu'on vous regarde avec sérieux en se disant « ils peuvent aussi faire du luxe ».
Oui, effectivement, je pense que de plus en plus d'Africains veulent représenter l'Afrique d'une façon différente. Donc, on décide aujourd'hui de porter des marques made in Africa, des marques ivoiriennes, des marques ghanéennes, nigériennes, sud-africaines, parce que c'est notre identité d'abord, mais parce que les designers africains eux-mêmes ont atteint un niveau de qualité, d'originalité qui pousse, pas seulement les Africains d'ailleurs, hein, les Africains, mais aussi les Européens, les Européens, tous ceux qui sont en fait férus de la mode, à aujourd'hui acheter.
Mais est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que je me lance, hein, l'avenue Montaigne peut être concurrencée par ce que vous faites, par exemple l'avenue Montaigne à Paris étant là où on trouve toutes ces grandes marques.
Je pense que ça c'est l'objectif, c'est l'idéal.
C'est mais l'idéal, mais est-ce que les Africains sont sensibles à ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une clientèle qui sort de l'ombre aujourd'hui en se disant bon, on va arrêter de porter leurs costumes de là-bas et peut-être prendre des vêtements qui sont ici ou des bijoux ou du mobilier?
Oui, bien sûr, et ça se voit. Je crois que c'est pour ça que l'émission a lieu. La plupart des Africains aujourd'hui, si par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, l'ancienne génération allait uniquement à Paris ou à Milan pour s'habiller, aujourd'hui on décide de partager le budget, par exemple, entre des modes africaines et des modes européennes. On combine, on réalise qu'en réalité, on peut le mariage est possible. Et surtout au niveau de la qualité, au niveau du design, au niveau de l'originalité, les créations africaines n'ont plus honte de ce qu'elles
qu'elles proposent. Alors j'ai envie de poser la question, est-ce que aujourd'hui il y a la main d'œuvre pour aller au bout? Parce qu'on disait toujours oui, c'est des tailleurs qui ne travaillent pas suffisamment les finitions, qui ne sont pas allés au bout, il manque toujours quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui Moulay Tabouré, vous fondateur et PDG de Afrikea, qui est une place de marché en ligne dédiée à la création, vous voyez des finitions meilleures et est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre pour aller au bout, pour faire des choses vraiment de luxe?
Alors, c'est vrai qu'Afrikea, nous réunissons plusieurs milliers de vendeurs qui produisent effectivement en grosse partie en Afrique. Je sais que Sekou pourra répondre mieux que moi sur le processus de production, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour être à la hauteur et notamment à bien sélectionner. Ce que moi je peux dire en tout cas, c'est que quand on a eu 10 millions d'euros de ventes dans 145 pays, c'est que ce qu'on fait satisfait les gens, au moins une certaine mesure, parce qu'on n'atteint pas un certain niveau de vente.
10 millions d'euros.
Oui, c'est ce que nous avons fait sur les dernières années, la plateforme en ligne.
Alors là, je vais poser alors la question directement à Sekou. Est-ce qu'on peut fabriquer luxe directement en Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a le personnel suffisant?
Je suis convaincu que ce personnel existe, que cette main-d'œuvre existe, parce que nous y sommes arrivés. Et entre mon ancienne vie où j'étais directeur général de L'Oréal pour l'Afrique de l'Ouest et on finançait, on sponsorisait les fashion shows dans lesquels participait Nadré Laurent, on a pu voir vraiment de la qualité luxe. La problématique en Afrique n'est pour moi pas de trouver la main-d'œuvre qualifiée pour assurer les finitions, parce qu'elle existe. La problématique en Afrique, pour moi, elle est de trouver cette main-d'œuvre et de produire en masse, en un, et après de produire de manière durable. Et c'est là que la problématique s'est trouvée. Il y a encore des pays qui arrivent. Nous, on a dû, après des recherches en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, s'implanter à Maurice, en plus de s'implanter au Ghana. Qu'à Maurice, là-bas, on trouve la troisième plus grosse usine de Puma, des centres de fabrication pour Hugo Boss, pour Hackett, etc. Où, franchement, au niveau de l'équipement, de l'organisation, ces usines-là n'ont rien à envier à celles qu'on peut trouver en Asie ou en Europe. Au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, on trouve de la main-d'œuvre qualifiée. Sauf qu'il n'y a pas assez d'investissement ou d'investisseurs pour investir dans l'équipement et on va dire, la capacité de production de ces usines pour qu'elles puissent produire en masse, comme on peut le faire à Maurice.
Alors, on va revenir là-dessus, mais la Falaise Dion, créatrice ivoirienne de pièces réalisées à partir de Corée, nous a rejoint. Bonjour, la Falaise Dion.
Bonjour.
Alors, dites-nous, vous fabriquez vos bijoux sur place en Côte d'Ivoire ou bien vous les fabriquez ailleurs?
Non, je les fabrique en Côte d'Ivoire, dans un atelier à Abidjan.
Et est-ce que vous pouvez mettre sur pied une industrie, par exemple, pour fournir en masse s'il y a une réelle demande ou bien vous serez obligé de...
Oui, c'est possible de produire en masse ici. Il faut juste trouver, renforcer, employer plus de types. Sinon, il y a le savoir-faire. On a tout ici pour pouvoir monter une industrie.
Alors, lorsqu'on parle d'industrie de luxe, là, j'ai entendu tout à l'heure Sekou parler de durable, de production durable. C'est quoi exactement la marque de luxe durable?
Le luxe durable, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est le luxe qui fait attention à l'environnement et Et nous avons travaillé avec des consultants de Unido qui sont d'anciens ingénieurs textiles, qui justement nous ont dit de faire attention lorsqu'on parle de luxe durable. C'est important d'avoir certaines certifications telles que l'Ecotex, le Global Organic Textile Standard et le World Responsible.
Si on peut nous dire ça en français, on apprécierait.
Alors, ce sont des labels anglais ou américains. Donc, la traduction française n'existe pas vraiment. Ce sont des noms tant que tels, mais ce sont en gros des labels qui permettent de certifier que les vêtements ont été fabriqués dans des usines qui n'emploient pas d'enfants en dessous de 18 ans ou qui respectent les normes éco-friendly, ça veut dire qu'au niveau de l'impression, l'impression des vêtements est faite en minimisant le niveau d'eau et en s'assurant que le type d'encre et chimique soit le moins pollué possible. Mmh. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui est appelé luxe durable. Donc il y a la partie éthique, il y a la partie environnementale, et sécuritaire, on va dire, qui doit être respecté pour avoir ce type de certification.
Ça fait beaucoup de contraintes, non, pour démarrer?
Oui, c'est du coup ce qui est très difficile. C'est pour ça que nous, ça nous a pris à peu près 6 ans pour trouver des usines capables de opérer de cette manière et de nous faire confiance aussi. Parce que lorsque les usines sont capables de produire, souvent elles demandent de grosses quantités. Donc après des visites de 30 usines, nous avons finalement travaillé avec l'usine de Jacques Taylor qui fabrique pour Armani et une autre usine qui s'appelle Saint-Malo qui fabrique pour le groupe PVH qui fabrique aussi pour Tommy Hilfiger, ce qui nous a permis, nous, de garantir un certain niveau de qualité pour répondre à des normes internationales.
Vous avez joué dans la cour des grands. Marie-Laurence Kipré, décrivez-nous un peu votre marque, votre création, Nadré Laurent.
D'accord. Donc Nadré Laurent, c'est un créateur de... C'est une marque. Qui a décidé de faire la promotion de notre culture africaine, mais en associant des silhouettes africaines et modernes, mais surtout en alliant une qualité de matériaux, de finition excellente, parce que on a voulu démontrer au monde entier que l'Afrique est capable de produire des articles, des vêtements qui correspondent aux standards internationaux. Donc nous sommes très dans les couleurs, dans les motifs africains, mais avec une silhouette assez moderne et puis fournissant quand même du luxe.
Fournissant du luxe. Quand vous dites luxe, en quoi c'est différent de ce qui est vendu dans le grand public? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est les finitions? C'est quoi exactement qui fait sa singularité luxe?
Bon, moi, à mon avis, le luxe devrait correspondre à la qualité du produit offert. Quand j'ai qualité dans les tissus, dans les choix des tissus, les choix des matériaux, boutons et le choix des finitions, la qualité, pardon, des finitions. Parce que tout le monde peut faire une robe, tout le monde peut faire un pantalon, mais il faut que... J'insiste vraiment sur le terme qualité, hein, et l'originalité aussi, bien évidemment. La qualité des pagnes, parce qu'on utilise des pagnes faites localement, la qualité des fils utilisés et la qualité du design, mais surtout la qualité du produit fini. Donc si vous, par exemple, vous achetez une tenue Nadré Laurent pour votre sœur ou votre femme, pour l'instant, on ne fait que des femmes, on fait produit pour femmes, il faut que la qualité de ce produit-là équivale à ce qu'une femme irait acheter en France, chez Vuitton ou chez Dior, pourquoi pas.
Alors, Moulay Tabouré, lorsqu'on dit ça, qui achète essentiellement? Est-ce que ce sont des Africains ou bien c'est ceux venus d'ailleurs? Parce que très souvent, ceux qui sont connus, c'est parce qu'une star américaine, par exemple, Beyoncé, est venue ou s'est habillée avec ça ou a fait un clip avec. Mais au fond, à qui vendent ces créateurs et créatrices? C'est des Africains directement?
Alors, Africrea, on peut répondre pour les données qu'on a effectivement avec le PIEC. On est une marketplace, donc forcément, une grosse partie de nos ventes sont en Occident, on va dire, donc France, Europe, États-Unis. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des commandes même sur Africrea en Afrique. On a vu les commandes augmenter des clients africains, on va dire, quasiment x5 de l'année dernière à cette année.
Ah oui, quand même.
Donc, c'est sûr que ça... Oui, c'est une vraie croissance qui se montre dans les chiffres. Même si au total, la réalité, c'est que les clients, même en Afrique, ils souhaiteraient ce type de produit ou peuvent trouver des produits similaires physiquement. ou peuvent simplement travailler avec des artisans directement pour faire des choses personnalisées, qui est plus dans la culture. Donc il est indéniable qu'il y a un engouement dont a parlé Nadré, Marie-Laurent juste avant, et ses coûts. Et nous, effectivement, d'un point de vue chiffré, on peut aussi compléter en disant que les Africains achètent et le reste du monde aussi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter effectivement à notre industrie.
La Falaise Dion, vous, on a vu vos bijoux sur Beyoncé, dans ses clips, etc. Tout le monde en parle. Mais quelle est la clientèle qui achète le plus? Est-ce que là-bas, sur place, à Abidjan, il y a des clients qui viennent vous voir aujourd'hui en disant « nous, on veut du luxe » et représentent quel pourcentage dans votre clientèle?
Alors, pour le moment, le pourcentage est très faible parce que là, comme disait Moulay tout à l'heure, les Africains ou les gens ici en général, quand ils voient une pièce, ils se disent que je le fais en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont la possibilité de refaire aussi ces modèles-là.
Oh là là.
Donc ici, pour le moment, les gens préfèrent refaire, recopier, faire du plagiat pour acheter. Donc, pour
c'est
le
vrai
moment,
que vous êtes très plagié en ce moment.
Ah oui, énormément. Oui, mais on fait avec, on fait avec. Donc,
il n'y a rien à faire contre ça.
Oui, il y a des poursuites judiciaires à entamer, il y a beaucoup de choses à faire pour contrer le plagiat, mais c'est pas ce qui arrête vraiment le plagiat. En Afrique ou partout dans le monde, énormément de marques partout se font plagier. Après, le processus est assez long pour pouvoir d'abord protéger son travail et après ensuite de pouvoir éviter qu'on se fasse plagier. Mais je pense que ça fait partie de l'évolution de toutes les marques et c'est vrai qu'ici c'est assez fréquent et courant.
Alors comment ça s'est passé avec Beyoncé? Comment elle a découvert votre bijou?
Alors, comment Beyoncé a découvert? Elle a découvert grâce à Instagram où son équipe, ses stylistes, quand ils étaient ici, travaillait sur ses derniers projets, ils cherchaient quelque chose qui correspondait à l'Afrique et tout. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur mon compte Instagram et ils avaient vu mon travail. Et ces stylistes m'ont contacté sur Instagram et ensuite on a continué la conversation par email. Elles m'ont expliqué exactement ce qu'elles attendaient pour le projet et ça correspondait à mon travail. C'est comme ça que la première collaboration est partie avec son équipe et elle.
Alors, est-ce qu'on trouve vos produits ailleurs qu'à Abidjan aujourd'hui? Est-ce que vous avez des gens qui distribuent vos produits à travers le continent, par exemple, en dehors de ce qu'on peut trouver en ligne?
Oui, alors majoritairement, nous avons vraiment une politique. On est vraiment parce que la majorité des pièces La Falaise Dion sont personnalisables. Donc, c'est du sur mesure. Donc, les pièces sont en grande majorité vendues sur Africrea, sur le site de La Falaise Dion. Et on a un concept store au Gabon, un autre aux États-Unis où il y a la plus grosse clientèle qui est afro-américaine. Et bientôt, on aura un autre concept store au Nigeria.
C'est vrai que ça revient souvent, le Nigeria. C'est un grand marché, finalement, qui consomme les produits de luxe africains, on dirait, ses coûts.
Oui, c'est le plus grand marché, tout secteur confondu, je pense, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour sûr. Et au niveau du luxe, oui, c'est le marché le plus développé. Là-bas, les Nigérians n'hésitent pas à dépenser 1 000 $ pour les pièces fabriqués par des designers, enfin par des créateurs nigérians. Ce que l'on voit beaucoup moins en Afrique francophone.
Il faut dire aussi que les grandes marques sont bien installées au Nigeria. D'ailleurs, vous représentiez L'Oréal il y a quelque temps sur place. Est-ce qu'il y a de la place pour les autres créateurs africains? Est-ce qu'ils peuvent se faire une place aussi à côté de ces grandes marques qui se sont installées dans les grandes capitales africaines et de plus en plus, puisque certains parlent de l'Afrique comme Eldorado pour le luxe? On en parle dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On parlera également du financement de cette industrie du luxe sur le continent. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
ont pour ambition de briser le plafond de verre, de casser le mythe qui veut que l'industrie du luxe ne soit pas l'affaire des Africains. Ils se sont lancés dans cette industrie sans complexe. Désormais, ils sont courtisés par les stars et personnalités du showbiz qui affichent de plus en plus leurs créations. Mais quel avenir pour l'industrie du luxe made in Africa ? Existe-t-il un réel marché ? Et comment la financer ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au luxe made in Africa, avec plusieurs invités en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire et d'Accra au Ghana. D'abord, la Falaise Dion, créatrice ivoirienne de pièces de bijoux réalisées à partir des coris. Celle qui a été repérée par la chanteuse Beyoncé, toujours à l'affût d'une nouvelle garde hautement créative. Elle est en direct d'Abidjan, justement. Seconde invitée de ce plateau en direct d'Accra au Ghana, Marie-Laurence Kipré, créatrice de la marque Nadré Laurent. Notre troisième invité en direct d'Accra au Ghana est un transfuge d'une grande maison de luxe, L'Oréal, pour qui il a d'abord travaillé à New York avant d'être nommé directeur général de L'Oréal Afrique de l'Ouest, basé au Nigeria. Il est aujourd'hui le fondateur et directeur exécutif d'une marque qui s'est tout de suite fait une place dans l'environnement du luxe en Afrique, notamment dans les pays d'expression anglaise. Segbi, la première marque de luxe durable made in Africa. Notre quatrième invité est le cofondateur et PDG d'Afriquière, une place de marché en ligne dédiée à la création inspirée par l'Afrique. Mode, artisanat, art et autres. Dans la première partie de ce magazine, nous avons vu que de plus en plus, les Africains s'intéressaient à la mode, au luxe, mais pas seulement de marques occidentales. Alors, quels sont les pays où ça marche le mieux? Où est-ce que les gens vont acheter des produits de créateurs africains, Moulay Tabouré?
Alors, je vais prendre les données que nous, on a à Africréa. Donc, comme je disais, nous avons fait 10 millions d'euros de ventes dans 145 pays sur les dernières années. Mmh. En fait, une grande majorité aujourd'hui sont en Europe, essentiellement en France. Mais la plus grosse croissance, en fait, aujourd'hui, on a, on va dire, 50% des ventes faites en Europe. Mais il y a presque 40% des ventes qui sont faites aux États-Unis. Et ça a triplé depuis l'an dernier. Donc, comme la Falaise a pu l'évoquer, quand des créatrices comme elle créent des produits qui séduisent cette clientèle, elles consomment en quantité encore plus importante, avec des paniers moyens encore plus élevés qu'en Europe. Donc je pense que on est à l'entrée en fait d'une vraie diffusion à l'échelle mondiale en fait de toutes ces créations et tous ces produits made in Africa.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Marie-Laurence Kipré, que cela manque de publicité dans vos pays respectifs, parce qu'on reproche aux Africains de ne pas aller vers, mais c'est très souvent intimiste, non?
Moi, je pense que en Afrique, les Africains s'intéressent à la création faite sur place. Hein. Mm-hmm. Mais je pense que ce qui manque, c'est des réseaux de distribution. C'est des plateformes pour augmenter la visibilité des produits qui existent. Par exemple, une Ivoirienne, à peut-être Africaine, ça marche très bien parce que justement, c'est une plateforme qui permet que quelqu'un en Côte d'Ivoire, en France, en Mauritanie, aux États-Unis, puisse acheter de tout ce qui existe. Donc en Afrique, je pense que c'est ce qui manque principalement pour permettre une plus grande visibilité et puis découler plus facilement les produits au sein du continent d'abord et dans les autres continents ensuite.
Mais est-ce que aujourd'hui l'Africain qui n'a pas Internet, par exemple, parce que ça existe, ils sont nombreux, peut trouver vos produits en dehors de Afrikéa, par exemple, et qui n'habite pas à Abidjan? Est-ce que vous avez fait le travail pour qu'on le connaisse ailleurs?
Oui, Nadré Laurent, par exemple, est revendu au Nigeria, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bientôt en Afrique du Sud, dans quelques pays africains, également dans quelques pays européens en magasin.
C'est cool. Dans votre cas, vous avez créé une marque depuis peu, je crois que c'est depuis septembre 2020, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qui peut convaincre quelqu'un qui était dans votre situation, directeur général de L'Oréal Afrique de l'Ouest, à partir pour se lancer dans une telle aventure?
Tout d'abord, c'est une passion. La mode, beauté, luxe, c'est une passion. Je pense qu'au-delà du vêtement, ça véhicule un héritage. Et je trouve que cet héritage n'était pas vraiment représenté à l'international. Pourtant, il y a de belles choses qui se font en Afrique. Et plutôt que de me plaindre, je me suis dit que ce serait bien que j'essaye de changer les choses et de faire partie de l'aventure comme le font Moulay, comme le font la Falaise Dion ou Marie-Laurence. Mmh. Maintenant, nous, notre vision, c'était d'essayer d'apporter une solution, on va dire plutôt mass market, prête à porter, parce que lorsqu'on voit les belles marques pour lesquelles on a travaillé comme Ralph Lauren et Gucci ou Christian Dior, souvent ce qu'on voit, c'est une capacité de produire en masse et de répondre à une demande internationale. Et même lorsqu'on a de très très belles marques en Afrique, il arrive qu'elle n'arrive pas à répondre à la demande de gros retailers. Donc nous, on a essayé de répondre à cette demande-là. Mmh. Et en gros, c'était l'espoir et la vision que l'on avait pour le continent africain, en commençant d'abord par la mode, et puis après, on a une vision plutôt lifestyle, donc peut-être les parfums,
avant la fin de l'année.
Mais aujourd'hui, très concrètement, est-ce qu'il existe des moyens de financement des industries comme celle-là? On a le sentiment que les banques sont plutôt frileuses, et surtout que vous êtes en face des grosses structures qui ont les moyens, qui ont largement les moyens.
Oui, c'est vrai. C'est une problématique que j'évoquais au tout début. Donc clairement, nous avons dû investir de nos propres fonds, ce qui n'est pas toujours évident, mais nous avons voulu prendre ce pari-là, parce que nous croyons à ce projet-là, et nous voyons, comme l'a montré Moulet, ou comme l'a dit la Palais-Dion, qu'il y a quand même un intérêt, mais que les gens n'ont pas accès, ils ne savent pas souvent, comme l'a dit Marie-Laurence, où nous trouver. Donc lorsqu'on a cherché le financement, c'est vrai qu'on s'est souvent trouvé face à des fonds qui n'investissaient pas dans le secteur de la beauté ou du luxe. Mais à force de chercher, on a commencé des discussions avec le GIZ, ce sont les Allemands. Nous avons eu une mise en relation avec le programme Choose Africa de Proparco, avec lequel nous commençons juste de discuter. Et GIZ nous a introduit à la Fondation Tony Blair. Donc pour l'instant, rien n'a abouti. Nous n'avons juste commencé les discussions. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse frustration. Parce que pour pouvoir se développer, il est important de trouver des partenaires financiers ou d'avoir les moyens de ses ambitions.
Mais lorsqu'on dit que l'Afrique, c'est l'Eldorado du luxe, comme l'écrit quelqu'un de Deloitte, comment expliquer que même les banquiers d'ailleurs n'aient pas envie d'investir dans ce domaine-là sur le continent, d'après vous?
Selon moi, pour moi, c'est plus une question de priorité. Souvent, lorsqu'on regarde le continent africain, on regarde la problématique d'infrastructure, on se dit peut-être qu'avec les fintechs, on peut y arriver un peu plus rapidement. Et je trouve qu'on sous-estime l'industrie créative de la mode, du luxe, de la beauté dans laquelle on travaille. On oublie souvent que les gros pays, les gros de ce monde se sont développés d'abord en développant leur industrie textile et que pour nous, notre développement passe certainement par celui-là. Donc on essaye de convaincre les différents acteurs et souvent c'est aussi un manque de connaissances parce que l'industrie beauté, luxe est une industrie, on ne va pas dire de niche, mais c'est une industrie qu'il faut connaître pour pouvoir...
Ça reste quand même une industrie de niche, en réalité. J'entendais Moulay qui voulait dire quelque chose à l'instant, parlant de financement.
Oui, pas de souci. C'est pour compléter ce que disait Sekou à juste titre, c'est qu'il y a un manque de compréhension et peut-être de données. Alors, pour être un ancien PwC, comme vous citez Deloitte, Exactement. Et en fait, il y a un point important, c'est que, par exemple, aujourd'hui, un banquier ou un financier manque de visibilité sur qu'est-ce qui fait une marque à succès en Afrique, qu'est-ce qui fait une marque qui peut s'exporter partout dans le monde et qu'est-ce qui fait, on va dire, un créatif qui est capable de créer derrière un business qui emploie, comme a pu le faire la Falaise ou comme c'est quoi a commencé à le faire, comme Marie-Laurence le fait. Et je pense que derrière nous, c'est pour ça qu'on a sorti à créer un livre blanc de la mode africaine qui est sortie en 2018. On veut en faire une nouvelle édition en 2020 et l'étendre à toute la créativité africaine parce que nous avons la chance d'avoir non seulement des données de vente partout dans le monde, mais aussi des données, on va dire, en termes de performance des vendeurs. Donc pour montrer aux gens qu'en fait, oui, un vendeur avec si peu d'argent investi peut générer autant de retours sur investissement et par derrière, évidemment, et logiquement, pour un financeur se rendre compte que c'est une industrie où il y a peu de financement et une grosse opportunité de grossir, comme a pu le faire, LVMH à une époque, pour citer des exemples, on va dire, plus faciles à saisir pour eux.
Alors, Marie-Laurence Kipré, dans votre cas, qui vous a accompagné? Est-ce qu'il y a eu une banque qui s'est dit, on croit en ce que vous faites, et vous a donné de l'argent, ou vous a prêté de l'argent, pour démarrer votre affaire?
Mais pour l'instant, non, pas encore. Justement, Sekou disait tout à l'heure, Il n'y a pas de soutien pour l'industrie de la mode. Donc, c'est un financement personnel.
C'est très difficile de partir toute seule, comme ça, non?
Exactement, c'est difficile. Mais effectivement, nous aussi, on s'est lancé dans la mass production. C'est-à-dire, on veut pouvoir être vendu dans 20, 50, 100 magasins en même temps. Donc, on veut être une chaîne de prêt-à-porter. Et pour ça, il faut produire beaucoup. Et il faut financer soi-même pour l'instant. Mais je crois que dans le futur, les banques vont comprendre que c'est une très très bonne opportunité.
Mais pour l'instant, que vous disent-elles, les banques? Qu'elles ne comprennent pas votre business?
Oui, pour l'instant, elles ne croient pas vraiment en la mode en Afrique. Elles n'arrivent pas à estimer ce qu'elles pourraient gagner en retour.
La Falaise Dion, dans votre cas, vous avez une ouverture sur les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas tenté de rentrer dans votre business. On sait que Beyoncé et son mari sont plutôt très offensifs en matière de business. Ils ne vous ont pas proposé quelque chose pour rendre ça plus industriel?
Non, pas pour le moment.
Pas pour le moment.
Vous avez une proposition dans ce sens-là.
Mais qui vous accompagne financièrement?
C'est moi, toute seule.
C'est moi, toute
seule. À mon échelle, oui.
Mais on aura du mal à parler d'industrie dans ce cas-là si c'est chacun qui finance, non? Là, je pose la question à Moulay Tabouré. Est-ce que, dans cette situation-là, on peut encore envisager l'industrie tout de suite? Est-ce qu'on peut faire concurrence aux grandes marques qui arrivent avec des moyens impressionnants?
Je pense que oui, parce que à un moment, nos vendeurs, La Falaise l'a dit, Marie-Laurence l'a dit, ils font avec eux, mais ils font des grands résultats. Pour ne pas prendre des gens présents et rester dans l'anonymat, on va dire, on a des vendeurs sur Africrea qui, aujourd'hui, sont des personnes qui ont commencé avec 1000, 5000 euros il y a 2-3 ans et qui, aujourd'hui, génèrent 45 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
Par mois.
Donc, il y en a d'autres qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires annuel, comme Nana Wax l'a pu l'annoncer, elle le faisait. Donc, en fait, je pense que, comme l'a dit Marie-Laurence et comme ce que vous avez dit avant, il faut qu'il y ait les pionniers, malheureusement, dans tous les domaines, dans l'industrie, sont ceux qui supportent les coûts initiaux. Mais une fois qu'ils auront accompli et prouvé ce qu'ils sont capables de faire, je pense que n'importe quel financier à qui on dit, que ce soit une banque ou un institut de financement, qu'on a été capable de transformer 5 000 euros investis en 45 000 euros de retour par mois, peut tout de suite y voir de l'intérêt. Mais c'est un travail d'abord de réalisation, ensuite de formalisation et, comme on dit, comme dans le cas du luxe, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ailleurs dans le monde. Il y a eu des étapes et le financement est celui qui suit la formalisation du succès par des clients. Je pense que plus il y aura de clients, plus il y aura de financement et ce ne sera pas dans l'autre sens.
Mais est-ce que cet environnement ne souffre pas aussi, en tout cas la difficulté à trouver du financement, ne souffre pas aussi de la situation du doing business?
Vous m'avez surpris avec ce terme en anglais.
Qui est un très c'est pas habituel, mais puisque vous parlez tous anglais, alors je me mets à l'école anglaise. Une chaîne française.
Non, je pense pour moi, c'était d'abord une question de priorité. Parce que c'est vrai que, bon, on sait qu'il y a des problèmes de gouvernance et de compliance, mais je pense que quand on regarde les profils qu'il y a autour de cette table-là, ça reste quand même des profils plutôt internationaux qui se prouvent et qui, en tout cas, en général, plutôt l'industrie et les priorités, le problème. Souvent, les banques et les financiers, quand on leur parle, ont besoin de montrer ce qu'ils apportent à l'Afrique, parce que ça fait aussi bien parler de leur institution, montrer qu'ils financent des projets au niveau de l'agriculture, de l'infrastructure. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de beauté mode, pour eux, ça ne rentre pas dans des priorités.
Il n'y a pas de cas de
arriver à les convaincre que ce sont des secteurs qui, à pouvoir, arrivent aussi à changer la perception quand même du compte, parce que le continent est très riche en créativité et peut permettre le développement, parce que on importe plus de 40 ans de nos vêtements. Moi, je suis originaire du Mali, un gros pays producteur de coton, et en fait, lui, quasi rien sur place, donc c'est à peu près la même problématique qu'on a avec le pétrole dans notre pays, et c'est vraiment dommage, parce qu'on peut arriver à pallier au déficit budgétaire si on arrivait à s'habiller nous-mêmes.
À fabriquer nos vêtements.
Exactement.
Alors, Marie-Laurence Kipré, lorsqu'on parle de marques de luxe, les gens se disent tout de suite, ça coûte très très cher. C'est quoi la moyenne des prix chez vous? Est-ce que Monsieur Lambda peut venir acheter des vêtements chez vous qui soient de luxe, qui soient de qualité, ou bien c'est au-dessus de la moyenne?
Chez nous, à Nabré-Laurent, les prix partent de 100 dollars. À un peu plus. À
100 dollars, c'est-à-dire 55 000 francs CFA selon le dollar, les jours, oui.
Voilà. À un peu plus, 500, 600 dollars. Voilà. Donc, mais je pense que c'est la qualité qui convainc le client, la qualité du produit offert qui convainc le client. Et honnêtement,
ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais bon, on a compris quand même qu'il y a des produits à 100 dollars, c'est-à-dire à 55 000 francs CFA à peu près. La Falaise Dion, chez vous, c'est quoi les prix les plus bas et ceux les plus élevés?
Alors, pour les pièces là disponibles en ce moment, il y a 0 à 400 euros. Après, quand ça rentre dans la customisation, ça peut aller plus loin à 500, 600.
70 euros, c'est à peu près 50 000 francs CFA.
Oui.
50 000 francs.
Et il y en a moins.
D'accord. Donc, les gens n'ont pas à avoir peur de venir chez vous. Les bijoux ne sont pas finales en réalité, lorsqu'on écoute ça. Quand on va sur le marché, c'est à peu près ça, les tarifs, non?
Absolument.
C'est coût chez vous? Prohibitif en prix, quel est le profil de ceux qui peuvent acheter quelque chose chez vous? Ça coûte quoi?
On est à peu près dans le même ordre de prix. Hein. On a des accessoires qui commencent à 40 dollars. Après, lorsqu'on rentre dans le vêtement, dans les polos pour hommes, on est à peu près à 85 dollars. Donc, on est vraiment en ligne il y a tout ce qu'on appelle luxe accessible, on monte jusqu'à $600. Et juste pour revenir sur le point que Laurence a fait, c'est que oui, en fait, mais quand, lorsqu'on regarde l'échelle du luxe, en fait, ces prix-là sont vraiment les premiers prix du luxe.
Absolument.
C'est-à-dire que lorsqu'on vend moins cher que ces produits-là, nous rentrons dans le moyen. Et donc, du coup, on essaye d'avoir un luxe quand même assez accessible. On n'est pas dans les $2000, $3000, $4000.
C'est sûr que c'est le prix de l'avenue Montaigne. Ça, hein. On en est vraiment loin. Moulay Tabouret, c'est quoi la moyenne des prix et comment celui qui n'a pas le magasin chez lui aller en ligne et se l'acquérir, puisque on sait que la communication en Afrique n'est pas toujours évidente. Est-ce qu'en ligne, il est sûr de recevoir et quelle est la moyenne?
Alors, la moyenne des tarifs sur Africrea est de 50 euros en moyenne pour un article sur le site.
C'est-à-dire une trentaine de mille de francs CFA.
Exactement, 30 000 francs CFA en moyenne. Après, tout dépend de où vient le produit, donc quel est le vendeur, où il est basé dans le monde et où est l'acheteur. Ce qui est vrai, c'est que sur Africrea, nous, ce qu'on offre comme garantie pour un acheteur ou qui sont dans le monde, mais quand il paye, le vendeur est crédité des fonds, mais ne peut les retirer que quand l'acheteur a bien reçu le produit.
Ah, c'est bon à savoir, ça. Ça, c'est bien à savoir. C'est-à-dire que le vendeur n'est crédité que lorsque l'acheteur est rentré en possession de son bien.
Exactement. Il est informé du crédit. Nous le conservons en tant que tiers de confiance, mais il ne peut les retirer qu'une fois que l'acheteur les a reçus ou est satisfait de l'achat.
Et la messagerie, ça marche bien ou pas? Dans ce
domaine-là. Alors, je vais vous dire, ça marche très bien parce que c'est une expérience sociale d'achat. Comme l'a dit La Falaise notamment, qui est un très bon exemple chez nous, c'est beaucoup de produits personnalisés. C'est une expérience d'achat qui, pour moi, fait partie du luxe aussi. C'est de savoir qu'on a un vêtement qui est unique ou en tout cas fait que pour soi. Et du coup, un exemple chiffré, parce qu'aujourd'hui, j'essaie de donner un maximum de chiffres pour ceux qui nous écoutent. On a sur Africrea en moyenne 50 000 messages par mois. Donc, vous faites le calcul et ça en fait plus de 1000 par jour.
50 000 messages par mois, c'est pas mal déjà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'existe pas un moyen, puisque quand on regarde, vous avez peu de moyens financiers finalement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de vous mettre ensemble pour avoir des magasins dans les villes, parce que les gens ne peuvent pas acheter qu'en ligne? Bien sûr, en ligne, c'est l'avenir, c'est évident. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous réunir ces coûts pour créer un cadre qui vous permette au moins d'avoir votre place à côté des grandes marques qui existent déjà sur place et qui arrivent en force sur le continent?
C'est un très bon point. On va dire les points de vente se développent petit à petit. C'est vrai que nous n'avons pas l'ambition d'aller dans le retail parce qu'on avait déjà énormément de travail avec le développement de la marque, étant donné que cela nous coûte très cher de faire du luxe durable avec l'importation de fabrication spécialisée, par des contraintes de qualité qui sont assez élevées, la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on travaille avec ceux qui savent déjà faire. Donc, sur le Ghana, par exemple, nous avons signé un partenariat avec Viva Boutique, qui est une chaîne de luxe qui existe depuis quelques années. Sur le Nigeria, nous avons signé un contrat avec Simple News. On peut trouver nos produits. Et nous avons aussi, nous avons commencé tout d'abord par rentrer chez parce que c'est l'unique plateforme que nous connaissons de qualité sur le marché pour essayer de toucher notre site. Donc, il y a encore énormément de travail à faire aussi sur la distribution, mais les gens...
Sur la distribution, malheureusement, la ligne est en train de s'abîmer et nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On vous souhaite bien du courage à tous, hein, puisque vous symbolisez une nouvelle génération et on espère que vous allez vous en sortir dans un environnement qui n'est pas facile. Bon courage à vous en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Créé en 1966, le festival de musique de la Chaise-Dieu en Auvergne est devenu le grand rendez-vous d'été des mélomanes et des artistes de renommée internationale. Pour sa 55e édition, le festival continue d'offrir des temps forts de musique sacrée son ADN. Rencontre avec son directeur, Julien Caron.
Religion du monde.